Alors, nous avons pour discuter très sérieusement de ce qui est essentiel et pas essentiel, M. Jean-François Bellot, qui est le directeur des relations gouvernementales au Conseil canadien du commerce de détail. Bon lundi matin, M. Bellot.
Bonjour, M. Hood.
Un nain de jardin, l'expérience a été faite par TVA Nouvelles, c'est pas ce qu'on appelle un bien essentiel.
C'est plutôt ce qu'on pourrait appeler un bien superflu, pour ne pas dire superfétatoire.
Mais quand même, il y a des commerces qui ne sont pas censés vendre de ces biens, comme vous dites, superflus, et qui le font quand même.
Ben, écoutez, on a eu, cette année, les commerces ont, c'est-à-dire qu'au mois de mars, là, pour cette annonce-là, les commerces ont eu à peu près 24 heures pour se préparer. OK? On va tirer une ligne, là, entre le commerçant qui a essayé de se préparer, qui en a échappé un peu, puis le commerçant qui a dit « Ah, oh, ben, moi, je fais rien, puis je vends tout. » Tu sais, dans le reportage de TVA, effectivement, là, je suis assez d'accord qu'un nain de jardin, c'est comme les carillons avant, là, c'est assez...
Ça aussi, c'est non essentiel.
Effectivement, mais l'utilité est assez limitée. Mais la majorité des détaillants ont tenté de se préparer. Ils ont eu peu de temps. Je peux vous dire que probablement ce matin, demain matin, la vaste majorité d'entre eux ont été comme se sont replacés. Là. Mais c'est sûr que le détaillant ou la chaîne de détaillants qui a décidé, elle, que tout était essentiel dans son magasin sans faire preuve d'aucun jugement,
ouais.
Ben, elle va rester un peu coupable, surtout.
Regardez là, c'est Chaudière-Appalaches qui a écopé hier. Et vraiment, on pense toujours aux restaurateurs qui ont été obligés rétrograder. Ils sont obligés d'aller chercher de la nourriture qu'ils risquent de perdre, d'ailleurs. Il y avait des restaurateurs qui, en fin de semaine, tentaient de donner leur nourriture à des organismes. Dans le domaine du commerce de détail, M. Bellot, c'est un peu la même chose. Vous entrez du stock, ce qu'on appelle l'inventaire, qui doit sortir pour recevoir d'autres stocks.
Oui.
Donc, à un moment donné, il y a comme un refoulement, en quelque part.
Ben oui, mais reste néanmoins que, revenons à l'exemple des nains de jardin, c'est pas périssable. Si le magasin réouvre dans un mois, puis qu'on remet les nains de jardin en vente, ben ils vont être encore tout aussi beaux et tout aussi attrayants pour le consommateur. Que c'est pas comme une douzaine d'œufs ou du jambon pour faire des déjeuners pour les restaurants. Il y a une date d'opération. Nain de jardin, il n'y a pas de date d'opération.
Non, ça, vous avez raison. Dans la nourriture, c'est beaucoup plus délicat. Cependant, lors de la première vague, rappelez-vous, M. Bellot, on avait reproché au gouvernement d'avoir établi une liste, disons, arbitraire. Il y avait des choses qui se retrouvaient là, essentielles pour des personnes qui ne pouvaient pas trouver. Puis il y avait d'autres affaires qui n'avaient rien à voir, qui n'étaient pas essentielles et dont les commerçants avaient le droit de vendre.
Bien, monsieur, première fermeture, il n'y avait pas de liste. OK, le gouvernement avait établi une règle qui était ce qu'ils appelaient, puis ce qu'ils appellent encore aujourd'hui, la règle du jugement. C'est-à-dire que le commerçant doit se poser une série de questions. Est-ce que ça se mange? Si ça se mange, c'est essentiel. Est-ce que ça sert à réparer quelque chose ou à entretenir? Si la réponse est oui, on peut le vendre. Est-ce que ça sert à la sécurité, la santé, l'hygiène? Si la réponse est oui, on peut le vendre.
Oui, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui avaient eu des surprises en allant tout simplement à leur commerce, en disant « c'est ouvert, j'ai le droit, je porte mon masque ». Ils arrivent là et ils voient un étalage qui est complètement recouvert de papier ou, enfin, interdit de circuler.
Voilà.
Bon.
Et ça a été un peu un supplice de tantale pour les consommateurs.
Ben oui, c'est-à-dire plus on interdit quelque chose, plus on sollicite le désir.
Ben voilà, si l'objet de désir n'est pas accessible, il devient encore plus désirable, c'est fondamental. Mais reste néanmoins que les commerçants ont fait des efforts, vont continuer d'en faire. Le consommateur aussi doit faire un effort. Si à un moment donné, on arrive dans un magasin, puis un des éléments qui fait l'objet du désir n'est pas accessible parce que n'est pas essentiel. Puis un exemple tout aussi, on prend l'exemple du nain de jardin, mais ça peut être tout simplement l'ensemble de patio, les meubles de patio, le nouveau barbecue, ces choses-là. le consommateur fasse preuve de compréhension.
Oui, mais il y avait eu des incohérences dès la première vague, M. Belleau. Rappelez-vous, les appareils électroménagers. Il y avait des gens qui disaient, c'est essentiel que j'ai une laveuse sécheuse. Et il n'y avait pas moyen d'en trouver parce que... Vous vous rappelez?
Oui, mais en fait, les magasins n'avaient pas le droit d'en vendre.
Ben oui.
Physiquement. Mais vous pouviez faire vos achats sur le web.
Ben oui, mais c'est ça qui n'a pas de sens. Un commerçant, lui, il aime vendre son plancher. On se comprend.
Mais oui. Ben, je le sais.
Alors,
je sais.
Et c'est pour ça que je vous dis que le danger de ce genre de gestion, on peut comprendre qu'il y a une volonté du gouvernement et des autorités de la santé de mettre de l'ordre un peu et de contrôler le message. Comme je vous dis, Chaudière-Appalaches, là, hier, c'est dur pour les Beaucerons, notamment, de revenir, là, avec des mesures de couvre-feu à 20 heures et puis des mesures très restrictives au niveau des... pas de restaurants et puis des commerçants aussi. C'est vrai, mais le consommateur, lui, allait là de bonne foi en disant « Pour moi, c'est essentiel, ce bien-là. Pourquoi le gouvernement me dit que ce n'est pas essentiel? »
Ce qui est dur pour les détaillants, c'est que le gouvernement n'a pas fait de liste. Hein? On n'en voulait pas non plus. Donc, c'est dans l'esprit du consommateur, c'est le détaillant qui a choisi qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, c'est lui qui devient un peu l'arbitre de dire est-ce que c'est essentiel ou ce ne l'est pas. Il
doit
utiliser son jugement.
Ouais.
Et c'est lui aussi qui prend la chaleur du consommateur. Qui vit un désir intense.
Mais on le dit souvent, M. Belleau, vous qui êtes avec le Conseil canadien du commerce de détail, il y a tous les goûts sont dans la nature.
Ce, oui.
Ce qui est essentiel pour vous ne l'est peut-être pas pour moi et vice-versa.
Ben oui, non, vous avez tout à fait raison, par exemple. Je veux dire, pour moi, vous avez raison. Il y a des éléments qui, pour moi, sont essentiels. D'ailleurs, que je suis allé magasiner en fin de semaine.
Mm-hmm.
Pour ne pas prendre de chance.
Mais vous l'avez dit, là, des meubles de patio. Les gens ont tellement besoin de prendre l'air en ce moment. Moi, je dis que c'est essentiel.
Mais oui, vous avez parfaitement raison. C'est en partie essentiel. Est-ce que... Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, puis je veux pas justifier. Mais quand le gouvernement prend ses choix, fait ce choix-là, de dire on referme les commerces non essentiels, son objectif, c'est pas de punir les consommateurs, c'est pas de punir les détaillants, c'est de limiter les déplacements de population.
Ouais,
c'est d'éviter que les
vous
gens...
Vous voulez dire pour aller magasiner?
Oui, c'est d'éviter que les gens sortent de chez eux. Le message derrière tout ça, c'est rester à maison.
Oui. Mais là, vous encouragez le commerce en ligne. Le pauvre commerçant du coin, il aimerait ça vous vendre une chaise de jardin. Il aimerait ça vous vendre un barbecue. Et puis là, vous dites, ouais, mais je vais faire comme avec la laveuse sécheuse lors de la première vague. Je vais la commander en ligne. Ils vont venir me la livrer directement. Vous passez par-dessus, justement. Et pourtant, le gouvernement, dès le départ de la pandémie, avait lancé le sac bleu et puis achetons chez nous et tout ça.
Le panier bleu, mais...
Le panier, pardon. J'ai dit ça.
Oui,
je ne suis pas loin.
Mais... Une chance, vous n'avez pas utilisé un autre.
Non, c'est pas le sac, mais c'est
pas
le panier.
Bleue, là.
Non, c'est pas la poche bleue, c'est ici, ça.
plus sérieusement, quand vous allez, par exemple, sur un site d'un détaillant québécois, puis que vous faites votre achat là, vous pouvez le ramasser à la porte.
Oui, ou encore, on peut vous le livrer. Vous avez raison.
On peut vous le livrer. Vous pouvez même prendre le téléphone, appeler votre commerçant de quartier qui a le droit de faire ce qu'on appelle des cueillettes en bord de trottoir.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que moi, je peux appeler le petit détaillant pas loin de chez nous, dire hey, « Salut, j'ai besoin d'une chaise de plastique pour mettre dehors. Je vois les modèles que tu as. Mets-moi en une de côté, ce modèle-là. » Je peux passer à aller l'acheter.
C'est vrai.
Il faut que la transaction se fasse à l'extérieur.
Vous avez raison. Il y a même aussi plusieurs commerces qui sont adaptés et qui permettent l'achat en ligne. C'est parce qu'il faut s'enlever de la tête que commander en ligne, c'est toujours Amazon ou les géants. Non. Il y a beaucoup de commerces que vous aimiez fréquenter qui sont en ligne.
Tout à fait.
Ouais.
Les quincailliers ont toutes les grandes chaînes.
Oh, ouais.
Ont toutes leurs sites web. Vous pouvez commander tout sur Internet. Ce qui n'est pas accessible en magasin, vous pouvez l'acheter sur Internet, puis passer le prendre en magasin. Même chose pour... Il y a même des boutiques de vêtements qui le font maintenant.
Est-ce que vous pensez à long terme, M. Bello, en terminant, que ça va modifier pour toujours notre façon de consommer et en même temps, en parallèle à cette question-là, pour la façon dont les commerçants vont opérer? Pensez-vous que ça va rester en disant, moi là, avoir des inventaires là, à n'en plus finir, et puis que je ne sois pas capable d'écouler tout mon inventaire, je vais être beaucoup plus enclin à y aller selon la demande et l'offrir d'abord en ligne?
Et non, je ne crois pas, moi. Aussitôt qu'on va sortir un peu la tête de cette pandémie-là, puis qu'on va trouver que la majorité de la population va être vaccinée. Les gens aiment ça, aller magasiner, M. Wood.
Surtout quand il fait beau.
Oui, puis ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Il ne faut pas s'imaginer que les gens vont s'enfermer chez eux derrière leur ordinateur. Ils vont continuer à aller magasiner. Ce qui a changé, puis ce qui va changer pour les détaillants, c'est-à-dire que beaucoup de boutiques de quartier vont ouvrir ou ouvrent déjà des sites web qui sont des extensions de leur boutique. Puis pour les grands détaillants, ils commencent de plus en plus à traiter leur site web comme un xième magasin. C'est-à-dire qu'on a, mettons, 100 magasins physiques au Québec, et le site web devient le 101e magasin, mais il est virtuel.
Donc c'est un ajout.
C'est un ajout.
Vous croyez quand même que les boutiques qui ont pignon sur rue ont un avenir après la pandémie.
Ah oui, ben oui, c'est sûr. Écoutez, c'est parce qu'un commerce, M. Hood, c'est plus que juste un endroit où on va acheter des choses. C'est un lieu de socialisation. C'est un moteur de vie pour un quartier. Imaginez là, un peu le plateau Mont-Royal sans la rue Mont-Royal, qui est une rue de commerçants. C'est un tout autre quartier. Mm. Puis c'est pas la ville, puis c'est pas l'arrondissement qui crée cette vie-là. C'est les détaillants.
Et vous avez raison, dans un domaine en particulier, M. Bello, les vêtements. Je m'excuse, mais oui, on peut commander n'importe quoi en ligne. Mais il n'y a rien de mieux que, comme on dit, aller l'essayer dans une cabine.
Ben, c'est parce que les fabricants de vêtements ont tellement le tour de ne pas avoir des mesures standards qui fait que maner un 32 d'une marque fera pas sur... voilà.
Alors, ils vont vous l'ajuster. Ils vont vous dire, au pis-aller, là, quand on allait pour une paire de jeans, moi, te l'ajuster, aller prendre un café, là, ça va être prêt dans une heure. Essayez de faire ça en ligne.
Il y a encore une boutique sur la rue Sainte-Catherine où vous y allez. Il vous trouve la paire de jeans, puis pendant que vous attendez, il vous l'ajuste, vous repartez.
Ben voilà, c'est l'exemple que je voulais donner. Eh bien, c'est rassurant. Et les nains de jardin, vous êtes d'accord avec ça, c'est pas un bien essentiel, de même que les bling-bling dans les arbres.
Non, les carillons de vent, c'est absolument même superfétatoire, comme dirait un de mes anciens patrons.
Avez-vous des voisins, M. Bello, qui ont ça dans leurs arbres?
Non, heureusement, j'ai pas des voisins qui ont ça dans leurs arbres, ni des voisins qui ont des chiens qui jappent la nuit.
Ben voilà, donc vous êtes bien. Merci, merci de nous avoir parlé ce matin, Jean-François Bello, du Conseil canadien du commerce de détail. Thérèse, vous en avez eu de ça?
Oui, j'ai eu ça une fois.
Des carillons?
Oui, j'ai eu ça. J'ai eu un carillon dans ma vie, que j'ai encore, que j'ai toujours, mais qui est dans un tiroir.
Moi, là, j'ai eu tellement peur à 3 heures du matin quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai vendu ma maison à perte. C'est pas loin de la vérité.
Alors que tout le monde vend avec
mais moi, Martin, je suis passé avant.
Oui, c'est ça.
Alors, je suis passé dans l'eau. Il y a peut-être des gens qui m'entendent là ce matin. Nous aussi, on est passé avant la bulle. On fait une pause, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui vous tombe sur les nerfs chez le voisin? Est-ce que ce sont ces petits carillons qui vous font peur à 3 heures du matin?